Vous écoutez France Musique.
Bienvenue au Diable Beauvais. C'est la plus francophile des divas britanniques qui sera à notre table aujourd'hui. Comme l'écrivait Anne Ray dans Le Monde il y a quelques années, cette londonienne a la classe, le port, le chien d'une Edwige Feuillère autrefois. Elle est ce qu'elle chante sans avoir à le jouer. Alors laissez-vous tomber sous le charme comme moi et poussez le son.
Il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
À Cheltenham, sa ville natale, papa joue du piano et du violon en amateur, alors elle se mettra aux deux, tandis que maman chante Cole Porter ou Irving Berlin entourée d'amis et impose un repas en français chaque semaine. À 2 ans pour son anniversaire, elle crame à sa grand-mère de pouvoir graver un disque, ce qu'elle fait. En 1968, on la retrouve entre Annecy et Grenoble, assistante d'anglais dans un lycée où, pour meubler le temps libre, elle s'inscrit au conservatoire et entre dans la chorale des Jeux Olympiques, ce qui lui permettra de réaliser l'un de ses rêves, voir Jean-Claude Killy de près. Sa prof l'incite à s'accrocher, elle rentre en Angleterre à la Royal Academy. Elle n'a pas, dit-elle, la voix pour Verdi ou Puccini, elle n'a rien d'une bête à concours, qu'à cela ne tienne. Mozart, elle débutera en Pamina, Strauss, elle sera notamment la maréchale de Kleiber, Britten ou Offenbach lui doivent tant, sans compter évidemment la Mélodie française où elle a gagné toutes ses lettres de noblesse, avec Duparc, Fauré, Anne, Gounod ou encore son très cher Poulenc, dans la chambre duquel elle a eu le privilège de dormir à Noisy. Mais elle n'oublie pas pour autant ses origines et fonde au milieu des années 70, avec Anne Murray, Anthony Rolvolton, Stephen Jackson et le fidèle Graham Judson au piano, le Songmaker Almanach, un quatuor dédié aux raretés vocales d'outre-Manche. Sachez encore qu'elle a l'âme plutôt facile, qu'elle chérit plus que tous son précieux jardin non loin de Glyndebourne, et vous comprendrez que nous y avons sorti aujourd'hui la vaisselle des grands jours pour accueillir Dame Felicity Lott.
Il faut savoir se composer une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. À l'opéra pour qu'on vous lance, être soi-même, c'est interdit. Alors pour être dans l'ambiance, à chaque instant, je m'étudie. Moi, sérieuse, je dois jouer à la poseuse pour me poser. Mais je vous jure que ma nature a du mal à se maîtriser. On dit que j'ai des exigences, on pense que je fais des chichis. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Quand je suis dans l'intimité, je reprends ma simplicité, j'en suis heureuse. Je vis pour moi, je m'appartiens, mais sur la scène je redeviens l'enquiquineuse. Il faut bluffer sa réussite. Sur mon visage, je me fabrique un maquillage dur et moqueur pour que l'on je dois de même maquiller aussi tout mon cœur. Ce n'est rien que pour l'apparence qu'au fond je joue la comédie. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit.
Bonjour Félicity Lotte.
Bonjour.
Dame Félicity Lotte.
Bonjour.
Alors ça c'était Félicity Lotte s'amuse, un disque un petit peu ancien déjà chez Forlan, et puis cette merveilleuse mélodie d'Oscar Strauss. En fait, vous êtes ce que l'on pense, vous êtes ce que l'on dit, non ? C'est l'inverse, non ?
Peut-être, ça me paraît bizarre d'écouter ça maintenant, c'est il y a assez longtemps j'ai fait ce disque-là.
Oui, mais
j'en étais très fière à l'époque.
Oscar Strauss fait toujours partie de votre spectacle, notamment
oui.
avec Laurent Pelly,
oui, tout à fait.
Autour de Parlez-moi d'amour.
Je pense
c'est
que
pas
je
une mélodie que vous avez renoncé.
Ah non,
à laquelle
j'aime,
vous
beaucoup,
avez renoncé.
J'aime beaucoup toutes ces chansons, ces mélodies d'Oscar Strauss et toute cette époque de musique, ça me plaît beaucoup.
Alors
je pense que je chante plus vite maintenant.
Ah, ok, on va voir. Lister un petit peu votre discographie, elle est énorme, on ne pourra pas tout entendre ce midi. Je ne veux pas vous donner du Dame tout le déjeuner,
oh, hein,
mais c'est important quand même pour une Anglaise d'être élevée comme ça, honorée.
Moi, hein? j'étais toute fière, et puis finalement, même en Angleterre, on ne sait pas comment le dire, on reçoit des lettres... Dear Dame Lot, mais en principe c'est Dame Felicity, mais si on ne sait même pas en Angleterre.
Si ça se perd chez vous, c'est une horreur. Ça.
Oui,
vous avez dit quelque chose de très mignon, parce que vous avez été invité, comme toutes les dames, par la reine d'Angleterre lors de son jubilé. Vous avez admiré cette femme qui peut rester des heures debout à saluer tout le monde.
Oui.
Mais qu'est-ce que fait une diva quand elle sort de la scène du Met avec ses admirateurs? Déjà, elle est restée sur scène 2 ou 3 heures, et ensuite elle fait la même chose, non? Vous êtes tout aussi admirable que la reine d'Angleterre.
Tout à fait.
Alors, Felicity, je vais vous appeler comme ça, ce sera plus
oui,
simple entre
oui.
nous. Qu'est-ce que vous avez fait de ce disque que vous avez enregistré à 2 ans? Vous l'avez toujours?
Je crois, oui, j'espère. Enfin, j'arrive pas à le trouver, en fait, je dois dire.
C'est malin, ça.
Oui, c'est peut-être...
Et qu'est-ce qu'il y avait dessus, alors? Qu'est-ce que vous avez enregistré à 2 ans?
À 2 ans, j'avais Away in the Manger et Rudolph the Red-Nosed Reindeer. C'était 2 chants de Noël et c'était pour ma grand-mère. Rudolph the Red-Nosed Reindeer has a very shiny nose. Oui, quelque chose comme ça. On entend ma mère derrière qui me donne des paroles de temps en temps. Mais c'était juste. Enfin,
c'était déjà juste.
Oui,
hein.
Oui, j'avais une bonne oreille.
Enfin, alors,
quand j'avais 2 ans,
c'était...
j'avais une bonne oreille.
On fait un petit bond dans le temps. Vous êtes encore toute jeune puisque vous êtes donc assistante en France. Jean-Claude Killy, c'était un rêve de le voir? Vous étiez fasciné par le skieur? Ou le beau gosse.
Le beau gosse.
Je préfère. Rassurez-moi, vous ne faites pas du ski, c'est dangereux.
Non, je ne fais pas de ski. Moi, je regrette beaucoup. Je viens de parler avec une amie qui enseigne le ski à des enfants. Et moi, je dis, est-ce que c'est trop tard? Pour moi, je crois que c'est trop tard, en fait. Mais j'étais assistante dans un lycée à Voiron. Et je suis partie une fois avec un des pions. Un assistant. Non, pas
un
pion,
oui,
pion.
Oui, en français, bien, un pion.
Faire du ski. Il m'avait prêté ses skis et ses bottes. On avait une paire de bottes, une paire de skis pour les deux. C'était un peu bizarre. Et une autre fois, je suis allée dans une station de ski. Et je n'arrivais pas à monter avec l'espèce de chose. Il fallait s'asseoir.
Tire-fesse, ça s'appelle ça.
Oui, j'ai oublié ça. Il y a tellement longtemps. Oui, le tire-fesse. Je n'arrivais pas. J'étais gênée. Moi, ma vie a été remplie de choses où j'étais très gênée parce que je n'arrivais pas à le faire. Donc, arriver plus ou moins à chanter, ça a été un grand plus.
Voilà, plutôt plus que moins. On va d'ailleurs l'entendre tout au long de cette émission. Alors, donc, vous repartez, grâce à cette prof que vous rencontrez d'ailleurs à Grenoble, qui
oui.
vous dit, il faut y aller, vous repartez à Londres, on reprend les études, et puis tout commencera par Mozart, évidemment. j'ai pas retrouvé la Pamina de vos débuts.
Non, ça n'existe pas.
En plus, c'était à l'English National Opera, donc c'était oui. En anglais en plus. Hein.
Oui.
Oui, forcément. Oui, oui. Donc là, c'était Elvira, on était dans Don Giovanni. Merveilleux enregistrement sous la direction de Sir Charles Mackerras avec le Scottish Chamber Orchestra. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu des parents magnifiques. Vous avez des parents magnifiques, non?
Oui, ma mère est toujours magnifique à l'âge de 93 ans. Tout en beauté, toute sa tête.
Elle chantait donc régulièrement avec ses copains
Oui, elle donnait des concerts, concert party, on appelait ça pendant la guerre, après la guerre. Et elle s'est amusée beaucoup pendant la guerre, en fait. Elle disait que c'était une époque, enfin, malgré tout, merveilleux point de vue de compagnie et de sortie. Et elle pouvait, avec mon père, il faisait ses spectacles. Et
mais ils n'en ont pas fait leur métier, eux.
Non, mon père était comptable et ma mère l'aidait dans son bureau. Elle était beaucoup, beaucoup plus douée en maths que mon père. Chut. Et elle est beaucoup plus douée en maths que sa fille aussi.
Et alors cette merveilleuse tradition qu'elle instaure de chaque semaine un repas en français. Pourquoi cette francophilie dans la famille?
Elle adorait, je ne sais pas pourquoi, elle était venue en France quand elle était jeune et elle a trouvé la France merveilleuse, plein de charme et... Et elle a transmis à ses filles, parce que ma sœur aussi, elle a fait une licence de français et elle travaille pour le gouvernement en Angleterre, mais pour le transport. Et elle vient de temps en temps à Bruxelles ou à Paris. Elle s'occupait de l'Eurostar. Elle devait traduire tous les documents. Elle parle mieux que moi maintenant, c'est un peu triste. Mais
vous êtes parisienne depuis quelques heures seulement.
Oui,
allez,
voilà,
ça va revenir très très vite.
J'espère.
Et alors ce menu hebdomadaire en français, c'était aussi une cuisine française ou pas?
Non. Ah, non, non, non. On était pauvres aussi, on a dû manger, je ne sais pas, non, ce n'était pas français. Alors, on mangeait cœur d'agneau et des choses que je ne connais pas le nom en français.
Bon Dieu merci, c'est oublié, tout va bien aujourd'hui. Et la cuisine française, vous la connaissez. Alors, à votre tour, vous avez aussi enregistré Cole Porter et Irving Berlin.
Cold as an old piece of marble, I allude.
Merveille signée, comme beaucoup d'autres, Irving Berlin, I Love Piano. Et là, vous étiez, Faye Stilott, avec ce pianiste que vous aimez, c'est Graham Johnson.
Oui, avec Graham. Qui,
Comment vous l'avez rencontré?
À l'académie. D'abord, il avait joué pour mes cours de chant. Et puis, il était tellement doué, il était tout jeune. Il venait de Rhodésie, oui. Comme c'était dans ces jours-là, Zimbabwe.
C'était encore anglais.
Oui. Mais il est formidable, Graham. Et là, moi, j'adore ce qu'il fait, ça me fait rire, enfin, tout ce côté qu'on ne pense pas forcément à ce genre de choses, ce genre de musique avec Graham, mais il connaît un peu...
Tout.
Tout, oui, c'est vraiment...
Et puis pour vous, c'est donc des souvenirs de jeunesse, puisque je ne sais pas si cette mélodie-là, votre mère l'a chantée à la maison, mais en tout cas, elle chantait Berlin.
Oui, beaucoup de choses, et Cole Porter, The Physician, enfin des tas de choses, oui.
Alors, on va parler beaucoup de musique française et de mélodies françaises, évidemment, dans votre carrière discographique. Mais il y a aussi cet almanach que vous fondez avec trois autres copains et Graham Johnson.
Mais ce n'est pas et Graham Johnson, c'est Graham Johnson qui avait fondé le Songmaker's Almanach. C'était son idée. Parce qu'à cette époque-là, les récitals de chant, c'était pas, enfin, non, le public ne s'intéressait pas beaucoup à ce genre de musique, à moins d'être Schwarzkopf ou Fischer-Dieskau ou Victoria de Los Angeles qui remplissait les salles, mais pour nous, pour les jeunes débutants, c'était
pas facile, oui.
C'était pas facile de commencer, de faire venir les gens. Donc, il a eu l'idée de faire des récitals sur des thèmes, avec des choses parlées aussi, avec des poèmes ou des citations sur des thèmes particuliers. C'était très intéressant. Le premier concert, c'était sur les vices.
Les vices.
Les vices.
Au contraire des vertus, vous voulez dire?
Tout à fait, oui.
Shocking.
Puis le public était un peu surpris. Il ne savait pas qu'on avait le droit de rire dans un concert, parce que c'est un peu comme l'église, c'est sacré la musique. Mais là, ils avaient commencé à penser qu'ils trouveraient... Enfin, c'était amusant. Et il a, je ne sais pas combien de programmes il a écrit. 70 programmes peut-être, je ne sais pas.
Alors, parmi ceux-là, il y a aussi des enregistrements qui nous sont toujours chers aujourd'hui, notamment celui consacré aux souvenirs de Venise.
Giacinte violette, fa in terra pausente, che gusto, che giubilo, l'inverno è scampà, ya neve svanira, ya brina finia, se temira l'aria, el sol chiapa fia.
Que c'est un peu pervers, Felicity Lott, puisque c'est du Rinaldo Han, mais en italien. C'était des souvenirs de Venise. Mais j'ai choisi pour vous parce que c'est la primavera, le printemps, et ça parle de fleurs, ce qui vous est très cher.
Oh. Mais c'était Anthony Rolfe Johnson qui chantait.
Oui, et vous et Anne Murray faisant le petit cœur derrière, voilà. Backstage.
Backstage, with the backing group.
Et surtout Graham Johnson derrière. Oui. Merveilleux programme.
Oui, mais c'est Graham qui a trouvé, je pense, ces mélodies de Rinaldo Han qui n'étaient pas connues, les mélodies de Venise. Et il y a des choses merveilleuses dedans, surtout pour ténor. tout le monde.
Ne soyez pas jalouse, il y a pas de mal de choses aussi pour vous quand même. Non, non. Alors là où moi je suis jaloux, c'est que vous avez eu la chance, le bonheur et certainement l'amusement de participer aux soirées Hoffnung Royal Festival Hall. Et c'est, voici un extrait de celle de 88. Petit extrait, c'était donc en 88, Royal Alberto à Londres, c'est Metamorphoses on Bedtime Theme. On est quoi? On est au lit, en scène de ménage?
Oui, oui, mais c'est se réclame pour Bonvita, c'est une boisson qu'on boit. C'est comme coco qu'on boit le soir.
Donc là, c'était vos démêlés conjugaux nocturnes avec David Wilson Johnson, pastiche signé Joseph Horowitz. Alors là, on partait de Bach, c'est le début de cette fausse cantate, mais on va jusqu'à Schoenberg.
Oui, moi, j'ai jamais entendu ce disque, merci beaucoup.
Bon, on va vous le prêter, Félicité. Non, mais ça, c'est l'art de s'amuser avec une culture énorme que seuls peut-être les Anglais à l'époque pouvaient faire. Oh. J'espère qu'en France, on peut le faire aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr.
Non, je ne sais pas, mais
un concerto pour aspirateur, c'est lui.
Oui, hein, et puis tous les dessins extraordinaires qu'il avait fait avec les instruments, le corps autour du cou, enfin des choses. Il était très aimé, c'est quelqu'un de très drôle. Oui.
Alors, on va justement rester dans l'amusement avec ce qui a peut-être pas révélé aux Français, parce qu'on vous connaissait déjà dans d'autres répertoires, mais cette belle Hélène d'Offenbach, d'abord, vous ne vouliez pas la faire, au départ. Hein. On s'est fait prier, Félicité.
Au début, je voulais le faire, et puis j'ai vu une mise en scène après, et j'ai dit, oh là là, ça va, je ne sais pas, je ne pourrais pas faire ça. Et puis j'ai rencontré Laurent et Marc Minkowski, et j'étais... Ah, j'étais bouleversée, c'était merveilleux. Je dis toujours, ça m'a changé la vie, en quelque sorte, ça m'a changé la vie. C'était tellement agréable de faire partie d'une équipe comme ça.
Oui, puis évidemment, vous connaissez En Maréchal.
Oui, d'être drôle, ça changeait tout. Oui, j'avais toujours essayé de me conduire comme il fallait, d'être princesse, comtesse. Mais là, d'être en chemise de nuit sur la scène à Paris, c'était autre chose, c'était drôle. Avec Michel Sénéchal et Yann Beuron, l'équipe était
Ça reste un immense souvenir, Dieu merci. Les enregistrements et le DVD existent, alors on vous écoute en Belle Hélène.
Blonde fille de Léda, j'ai fait quelques bruits dans le monde, Thésée, Arcas, etc. Et pourtant, ma nature est bonne, mais le moyen de résister, alors que Vénus la friponne, se complète en vous tourmenter. Se complète en vous tourmenter.
Votre belle Hélène, Félicité Lotte, Hélène d'Offenbach, c'était au Châtelet sous la direction de Marc Minkowski avec cette production absolument géniale. Vous êtes éclaté et finalement vous y avez pris goût. Au départ, vous vouliez même pas faire la reprise parce que vous étiez méfiante. Puis après, vous avez fait la Grande Duchesse aussi avec Laurent.
Oui, plein de choses le plus possible avec Laurent.
Et maintenant des spectacles, comme encore tout récemment à Lille. Donc ça y est, vous avez le virus, comme l'on dit.
Oui, je suis devenue groupie. Laurent Pelly groupie. Je vais voir ses spectacles partout, c'est partout où je peux. Enfin, non, il est vraiment génial. Et puis toute la distribution de cette belle Hélène, on s'est amusé, c'était vraiment avec François Leroux aussi.
Il y avait des chanteurs un petit peu établis, disons. Oui. Encore que parfois, ils étaient un peu à contre-emploi, comme vous, enfin, par rapport à ce qu'on imagine d'eux. Puis tous ces jeunes, Stéphanie Loustrac, Magali Léger.
Oui, je les ai vus.
Miss Maillot de Bain dans cette pièce-là.
Oui.
Et puis aujourd'hui.
Je les ai vus, Stéphanie et Magali, le premier jour des répétitions, quand j'arrive pour jouer le rôle de la plus belle femme du monde, je rencontre Magali Léger et Stéphanie Loustrac. Donc j'avais un peu peur. Et puis Laurent a dit C'est un rêve, je vais le faire, cette mise en scène. C'est le rêve d'Hélène. Donc, n'importe qui peut être la plus belle femme du monde si c'est un rêve. Donc, ça allait après.
Bon, ça va, vous teniez très, très bien le rôle, Félicité. Mmh. Alors, premier coup de fil de notre déjeuner, pour quelqu'un dont vous dites que vous êtes la première des fans, c'est Nathalie Dessay. Mais moi, je pense que c'est largement réciproque.
Oui, c'est tout à fait réciproque et depuis longtemps. Parce que je me souviendrai toujours, notamment, d'une représentation de Rosenkavalier. Je crois que c'était... Alors, il y en a plusieurs, parce que je l'ai vu plusieurs fois avec elle, mais notamment à Paris, je crois, où elle nous avait fait, mon mari et moi, complètement éclater en sanglots dans le grand monologue de la Marshaline. Pour moi, c'est la plus belle maréchale.
Et là, vous n'êtes pas un peu jalouse? Elle l'a chanté avec Kleiber plusieurs fois.
Alors voilà, je l'ai aussi vue avec Kleiber en 93 à Vienne. J'ai eu cette chance. Et voilà, c'était évidemment génial, quoi.
Alors, fascination, amitié réciproque, vous aimez bien rire, vous aimez bien les fleurs, vous aimez bien la vie toutes les deux. Et puis, elle vous doit quelque chose quand même, c'est d'avoir sauté le pas pour faire La Belle Hélène, c'est de vous avoir vu d'Orphée aux Enfers qu'il a fait accepter.
Oh, c'est pas vrai, c'est à cause de ça? Parce qu'elle, ah oui, parce que je sais qu'elle aime beaucoup Laurent Pellier, encore un point commun, avec qui elle a pas mal travaillé. Et je suis très heureuse d'entendre ça parce que, ouais, effectivement, il y a eu la Grande Duchesse de Gerolstein, il y a eu aussi. Tout un spectacle, La Belle Hélène, oui, bien sûr, mais tout un spectacle qu'elle a fait avec Laurent aussi par la suite.
Oui, ça, là, on le mélange.
Je suis très heureuse pour elle, parce que c'est vrai qu'elle n'avait pas eu l'occasion jusque-là de s'amuser à ce point sur scène, je crois. Et que grâce à Laurent, elle a trouvé cet espace de jeu, quoi.
Enfin, grâce à vous, hein, parce que c'est vraiment dans Orphée, après vous avoir vu à Lyon, qu'elle a dit bah, « Ok, je vais me lancer, je vais me lancer dans Belle Hélène ». Et puis, il y a autre chose qui doit vous rapprocher aussi, c'est le goût et l'art de la mélodie française. Vous venez d'enregistrer récemment des mélodies inédites de Debussy, mais Dieu sait ce qu'elle
oui,
vous a donné.
Oui, moi, je suis moins experte qu'elle en mélodie française, qui est hallucinant, parce que c'est quand même cette dame, Felicity Lott, hein, qui nous vient donc d'Angleterre, et c'est la plus française des Anglaises. Et ça, c'est aussi un sujet de très grande admiration de ma part, parce qu'elle parle le français admirablement et elle le chante quasiment mieux que nous. Hein.
Voilà. Oui, elle fait un petit peu partie de ces Anglais comme Gardiner ou Colin Davis qui nous ont ramené voilà. Des pans de musique française qu'on avait, nous, un petit peu oubliés. Hein.
C'est vrai. Et d'ailleurs, chaque fois que je veux écouter de la mélodie française, je me dis, tiens, alors, est-ce que Felicity l'a enregistré? Et je vais dans ma discothèque ou sur Amazon pour me procurer l'enregistrement, parce que je sais que ça sera une belle version.
Et alors, la dernière fois où on vous a vu ensemble à Paris, et quelle merveille, c'était la fille du régiment, avec cette merveilleuse duchesse qu'elle incarnait, et ce yodel invraisemblable.
C'est qu'on n'ait pas eu une scène ensemble. Quel regret, parce qu'on était dans le même spectacle, mais on n'a quasiment pas joué ensemble. Ça, c'est dommage. Et j'espère que ça se produira. Je ne sais pas quand ni comment, mais voilà.
Ooh.
Un extrait du duo de l'acte 1 d'Arabella de Richard Strauss entre Arabella et Zdenka, c'est-à-dire vous, Félicity Lott et Nathalie Dessay. Là, on a écouté l'orchestre du Royal Opera House Covent Garden sous la direction d'Antonio Papano.
Oui. Merci, Nathalie.
Vous étiez émue. J'ai dit que vous aviez la larme facile. Non, mais c'est drôle, elle vous adore. Enfin, c'est pas drôle, c'est bien.
Ah, mais c'est réciproque. Ben, quand je l'ai vue dans Orphée aux Enfers, là. Oh. Et, mais je l'ai souvent vue aussi sur scène à Chicago, dans Alcina, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin, elle était extraordinaire parce qu'elle investit, c'est ça, oui. C'est français. Mmh. Tout ce qu'elle fait, tous les gammes, les roulades dans Handel ou tout, enfin, dans Traviata, tout a un sens. C'est pas simplement des notes, c'est toujours dramatique. Elle trouve un sens à tout. Et puis, oh, sur scène, elle est incroyable. Et là, dans la fille du régiment, ce qu'elle a fait à Paris, c'était extraordinaire. Je l'avais vue à Londres, je suis allée pour la première à Londres aussi.
Oui, parce que vous n'étiez pas dans la production à Londres.
Oh non, c'était une comédienne anglaise formidable, Dawn French. Et moi, j'aimerais pas faire ce rôle à Londres, parce que suivre Dawn French à Londres, ça aurait été très difficile. Et on s'attend à autre chose que moi.
Non,
bah, tout le monde s'attend à autre chose que moi.
Bon, en tout cas, à Paris, nous, on a eu le plaisir de vous voir, c'était à la rentrée dernière. Et vous avez rajouté, pour le public parisien, un petit quelque chose au rôle que Donizetti n'avait pas écrit. C'était l'Opéra de Paris, au début de la saison, c'est l'extrait de La Fille du Régiment, où vous chantiez la Duchesse Félicity Lott, et là, vous avez rajouté ce petit yodel. Enfin, vous n'êtes pas la première, d'ailleurs.
Hein, non, c'est mon Sarah Cabaye qui l'avait fait à Vienne. Et puis, on ne trouvait pas, Laurent voulait d'abord que je chante quelque chose en anglais, contemporain avec Donizetti, mais on ne trouvait rien qui soit drôle. Et puis, finalement, il y avait quelqu'un qui venait avec, comment ça s'appelle, accordéon.
Pour
mimer l'accordéon avec ça. Mais le quelque chose de bien triste, c'était que Doris Lamprecht, qui chantait Duchesse, Comtesse, quelque chose, elle savait vraiment faire du yodel. Donc pour l'italienne, la répétition italienne, le chef a dit bah, non, ça n'a pas de sens, il ne faut pas que tu viennes simplement pour chanter ça. Mais, alors Doris, qui était là, fait un vrai yodel. J'ai toujours regretté beaucoup de pas pouvoir faire ça. Quoique j'ai chanté un peu le yodel dans Sound of Music, Mélodie du Bonheur. J'aurais
ben
fait
oui.
En concert.
Il y en a un vrai là aussi. Alors, des maréchals, vous en avez chanté combien, Felicity?
Oh, je ne sais pas.
Vous avez compté?
Une centaine peut-être. Non, même peut-être pas autant que ça. Mais un peu partout, oui. Et j'avais chanté Octavian à Glyndebourne 40 oui. fois. 40 fois quand même à Glyndebourne, deux séries de 20 représentations.
D'ailleurs, parfois on peut se tromper du coup, non? Dans les duos.
Oui.
Enfin, en tout cas, ouais. En répétition, pas sur scène évidemment. Mais...
Je pense que j'ai pleuré encore plus en chantant Octavian que dans La Maréchale. Ouais. J'avais tellement honte de quitter cette femme qui était tellement merveilleuse, La Maréchale, pour aller partir avec Sophie. Ça ne me paraissait pas du tout bien.
Pas du tout bien, effectivement.
Oh non.
Alors, il y a beaucoup de gens qui vous envient, car cette maréchale, vous l'avez notamment chantée sous la direction de Carol Schalberg. Du premier acte du Chevalier à la Rose de Richard Strauss, évidemment. Nous étions là à féliciter à Vienne avec vous en maréchal. C'était en 94, sous la direction de Carlos Kleiber. Vous l'avez chanté plusieurs fois avec lui, mais au départ, c'est presque un hasard du destin. Parce qu'à New York, c'est James Levine qui devait diriger, non?
Oui, tout à fait. Et un jour, je reçois un coup de téléphone disant que c'était possible que peut-être Carlos Kleiber dirigerait. Et est-ce que j'accepterais toujours de le chanter?
Le rêve de tout chanteur, chanter avec lui.
Je l'avais rencontré à Londres. Il était venu pour la répétition générale quand je le chantais avec Bernard Haitink à Covent Garden. Il est venu me voir dans ma loge après le premier acte. J'étais bouleversée, évidemment. Et puis il a dit peut-être nous allons le faire ensemble un de ces jours.
Et après, quand on travaillait avec lui, il faisait peur toujours, parce qu'il
oh, il
avait cette réputation, non?
Il était tellement gentil pour les chanteurs, et vraiment pour nous, pour notre trio avec Anne-Sophie von Otter et Barbara Bonney. On l'adorait, il était merveilleux, il était là pour toutes les répétitions, toujours, toutes les répétitions piano, évidemment. Et c'était drôle parce qu'on l'entourait de, je sais pas, croton. Il ne fallait pas s'approcher de lui, il ne fallait pas faire ça.
Oui, c'était Blackout.
Oui, il ne voudrait pas faire ça, mais il était adorable. Avec les enfants qui viennent dans le troisième acte, papa, tous les enfants, soi-disant enfants de Baron Ox, il était adorable avec ses enfants. Il était là en train de manger des donuts sur le lit avec les enfants. Et puis, il m'a écrit des lettres merveilleuses. Moi, je manquais toujours de confiance, comme tout le monde sait. Et quand je l'ai chanté pour la première fois en Allemagne, c'était à Köln, c'était après New York et avant Vienne. Et je lui ai écrit. Ben, il répondait toujours. Les chefs ne répondent pas quand on leur écrit. Mais lui, il répond avec des cartes postales drôles, des jeux de mots et tout. Mais là, il a envoyé un fax à l'Opéra de Köln pour dire que, enfin, des choses gentilles. Alors, tout le monde voit ce fax qui arrive de Carlos Kleiber. Ça m'a... Waouh, merci.
Ça, ça rassure. Hein.
Ça rassure, oui.
Alors, avis aux amateurs, le DVD de cette production viennoise existe encore, donc on peut essayer de le trouver. Il faut absolument le posséder. France Musique va consacrer cette semaine beaucoup de temps d'antenne à Reynald Dohan, quelqu'un qui vous est cher. Et donc, l'ami Nicolas Lafitte vous a fait une petite adresse à ce propos.
Cher Félicity Lott, depuis hier et ce jusqu'à vendredi soir prochain, France Musique s'intéresse à un compositeur génial. Mais il était aussi chanteur, pianiste, professeur, homme de lettres et critique musicale. Je veux parler de Reynald Dohan. Quand Thierry m'a dit qu'il vous recevait aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis tout de suite imaginé la rencontre Reynald Dohan, Dame Felicity Lott. Je suis certain que si vous aviez vécu à la même époque, vous auriez été copain comme cochon. Oh, Felicity, je vous imagine dans une grande robe genre Belle Époque. Certainement dans des tons pastels, avec un grand décolleté, habillé d'une magnifique parure et de beaux gants de soie qui montent jusqu'au coude. Nous sommes à Paris, ville lumière. L'époque est au progrès social, économique et technologique. Je vous imagine allant chanter dans les salons les plus prestigieux où bourgeois, artistes, intellectuels aiment se retrouver. Comme chez Madeleine Lemaire, tout Paris a essayé de se faire inviter pour entendre vos jolis aigus. Et dans le public, un certain Reynald Dohan, accompagné de Marcel Proust, vous écoute. C'est le coup de foudre, si bien que Marcel en est presque jaloux. Mais c'est une évidence, vous deviez vous rencontrer. Reynald Dohan aime tellement votre élégance, votre sourire lumineux et votre diction du français. Vous aussi êtes sous le charme de ce jeune homme, comme tout le monde dans le milieu d'ailleurs. Bien qu'étant né au Venezuela, il est, dit-on, le plus parisien des compositeurs français. C'est une belle et longue amitié qui s'installe. Les années passent et il vous écrit des dizaines de mélodies. Il vous accompagne au piano, de salon en salon, il vous fait travailler votre voix, il vous emmène en voyage aussi, comme à Venise, où vous vous retrouvez à chanter sur une péniche au milieu du Grand Canal pour la princesse de Polignac et toute la bourgeoisie vénitienne. Non mais quelle vie! Avec lui, vous pouvez parler théâtre et Sacha Guitry, un personnage qui vous fascine. Vous avez une admiration sans borne pour une soprano et comédienne exceptionnelle, Yvonne Printemps. Vous la rencontrez alors qu'elle chante Mozart, une comédie musicale de Guitry, avec une musique de votre ami Reynaldo. Vous allez boire de nombreux thés. Il adore le thé. Il aime votre raffinement. Et celui des salons de thé aussi. Pendant des heures, vous parlez des poèmes de Victor Hugo, de toutes les spécificités de la langue française. Vous n'êtes pas né en France ni l'un ni l'autre, mais la culture et la langue française vous passionnent. Vous pourriez en parler des heures. Vous seriez tous les deux des amis unis par l'élégance, l'humour, la sensibilité et la profondeur. Et oui, quand Dame Felicity Lott et Reynald Dohan se rencontrent, ça donne ça.
Thank you.
les vers sont de Victor Hugo et la musique, bien sûr, de Reynaldo Hahn pour illustrer cette chronique de Nicolas Lafitte. Et la voix était celle de Félicity Lotte.
Heureusement qu'on ne fait pas ça à la télévision, parce que...
Mais j'ai prévenu c'est le public, émouvant. Vous avez votre mouchoir à la main, on dirait Luciano Pavarotti,
oh là là.
Avec le grand mouchoir.
C'est pas la musique qui me fait pleurer, mais c'est les... Merci beaucoup.
Bon, ben on continue.
Mais j'aurais aimé rencontrer Reynaldo Hahn.
Ben j'imagine, oui. Moi aussi. Oui. Et vous avez rencontré Kleiber, donc déjà on est jeune. Alors Félicity, lorsque vous êtes en 68 en Savoie, ben évidemment vous chantez, vous êtes au conservatoire, vous chantez encore les JO, mais aussi vous commencez à acheter des disques de chansons françaises, et là vous aimez beaucoup Brel ou un certain Serge Reggiani.
Si vous la rencontrez, bizarrement parée, traînant dans le ruisseau un talon déchaussé, et la tête et l'œil bas comme un pigeon blessé, messieurs, ne crachez pas de jurons ni d'ordures au visage fardé de cette pauvre impure que déesse famine a par un soir d'hiver contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours, au jour le jour. La bouche usée par les baisers, trop souvent mais trop mal donné. Le teint blafard malgré le phare, plus pâle qu'une tache de lune. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les seins si lourds de trop d'amour ne portent pas le nom d'appât. Le corps lassé, trop caressé, trop souvent, mais trop mal aimé. Le dos voûté semble porter des souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes lorsque la nuit nous réunit. Son corps, ses mains s'offrent au mien et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassure.
Sarah 2 et par Serge Reggiani, encore que le prélude soit signé d'un certain Baudelaire et la musique de Georges Moustaki. Et puis cette Sarah, Félicity Lotte, c'est un peu une marche aussi. Hein,
oui, bah, hein. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Oh, j'ai toujours adoré cette chanson et je suis allée le voir quand il donnait des concerts à Paris. Si je pouvais, je venais.
Et comme voir. Brel, et comme vous d'ailleurs, puisque c'est André qui le disait, je le citais tout à l'heure, vous êtes ce que vous chantez.
Oui, mais hein. Oui, c'est ça. Oui, toute cette personnalité dans ce qu'il dit. Et chaque mot, c'est ça qui est tellement important, je trouve. On comprend chaque mot et ce sont des mots tellement émouvants. Mais là, nous, Moi, je m'écoute ce que vous avez, fait. fait jouer de moi, je comprends pas mal de choses. Mais de faire passer le texte comme ça, c'est tellement important et tellement émouvant.
Ben, vous le faites aussi, on le sait, on va l'entendre. Alors, deuxième coup de fil, dernier de notre déjeuner. J'ai pisté Nathalie Dessay jusqu'à Barcelone et j'ai trouvé ce matin François Leroux du côté de Nice. Oh. Il est au soleil, lui, le Vénard, pas sous la pluie comme nous à Paris. Et évidemment, on a parlé de vos passions communes, à commencer par celle pour Francis Poulenc.
Oui, tout à fait. Puis ça tombe bien parce que c'est la bonne année cette année pour se consacrer en grande partie à ce compositeur. Avec le cinquantenaire de sa disparition, donc c'est bien, tant mieux pour nous.
Elle vous doit un rêve, elle le confie souvent, c'est d'avoir dormi dans la chambre de Poulenc à Noisy grâce à vous.
Ouais, oui, mais moi malheureusement j'ai jamais dormi dans sa chambre. Non,
pas dans celle de Félicité.
Elle est à côté de Tours et c'est une très très jolie maison et c'est vrai que la vue sur la Loire, là c'est très inspirant, je suppose que lui qui disait toujours qu'il n'était qu'un invité en Touraine et qu'il y allait pour travailler, mais enfin la maison, c'était plutôt agréable d'y rester. Et de la chambre, on a vraiment une vue superbe. Donc, je pense que Félicité a dû en profiter.
Alors je le disais, puis on va l'entendre dans l'émission, c'est une grande, grande spécialiste de la mélodie française. Évidemment, elle manie ce français depuis sa plus tendre enfance, mais elle nous apporte quelque chose avec quand même ses racines anglaises quelque part, non ?
Oui, je crois surtout qu'elle elle a un amour de la langue qui est aussi le fait qu'elle soit anglaise et que ça lui est... Bon, peut-être aussi le fait qu'elle y a passé beaucoup de temps quand elle était jeune, ça faudra lui poser comme question, mais je pense qu'elle a, ça a un petit côté peut-être exotique pour elle, mais au sens admiratif, quoi. Donc, elle se sent à la fois à l'aise et en même temps un petit peu comme une petite enfant face à un objet de luxe qu'elle apprécie énormément. Donc c'est une sorte de c'est ça qui donne son caractère, enfin ça participe de cette diction et de cet amour de la diction française qu'elle a et qu'elle assume de manière absolument remarquable, sans doute unique dans les chanteuses étrangères qui chantent le français.
Et ça doit faire merveille dans les masterclass auxquelles vous la conviez régulièrement, notamment sur Poulenc.
Oui, non, mais le seul truc, c'est que Felicity, elle est trop modeste et trop humble. Donc, à chaque fois qu'elle est en masterclass, elle trouve tout le monde formidable. Donc, avec Poulenc, c'est bien parce que là, elle a toujours des choses à dire sur la manière de faire passer certaines choses et surtout de que l'imagination vous porte toujours en avant et non pas de se contenter de faire quelque chose de technique ou quelque chose d'épuré, de stylistiquement parfait. Il y a toujours beaucoup plus d'investissement dans Poulenc qu'on ne le croit généralement. Il l'a dit lui-même, il veut absolument qu'on le chante de manière totale. Il disait comme on chante Verdi, bon, enfin, on comprend ce qu'on veut, mais et ça, je crois que Felicity, elle le transmet très très bien parce qu'elle l'a tellement bien fait que tout le monde écoute avec attention ce qu'elle dit, quoi. Voilà.
Puis elle a aussi ce goût pour la chanson française. Elle aime Reggiani, elle aime Brel, elle aime ces gens-là. Et je pense que là aussi, ça sert pour Poulenc.
Ah bah absolument, Poulenc, lui, il adorait Maurice Chevalier et Dranem et tout ça. Donc on est dans la même tradition qui fait qu'il n'y a pas de frontière entre les musiques qu'on aime. Il faut avant tout les aimer, puis c'est ça qui est le critère. Hein. Il disait toujours, Poulenc, que l'écriture d'une mélodie, ça devait toujours être un mariage d'amour, jamais une liaison de raison. Alors donc voilà, on y est. Puis pour Felicity, il y a quand même quelqu'un qu'elle adore aussi et dont elle a fait une petite collection, peut-être elle vous en parlera, mais c'est sur Yvonne Printemps. Elle a essayé de rassembler tous les documents qu'elle pouvait sur Yvonne Printemps. Elle a trouvé pas mal de choses intéressantes et elle continue, quoi. Et Yvonne Printemps, c'était une admiration incroyable pour Poulenc. Et puis bon, il lui a écrit quelques jolies petites chansons pour ses pièces de théâtre.
Mon Dieu, faites qu'il redemande. 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 Mon Dieu, faites. On avait coupé. J'étais en train de te dire que si tu me mentais par bonté et que je m'en aperçoive, je n'en aurai que plus de tendresse pour toi.
De La Voix humaine, bien sûr, de Francis Poulenc, sur le merveilleux texte de Jean Cocteau. Et vous étiez là, Félix Tillotte, avec l'Orchestre de la Suisse romande, et quelqu'un qui a accompagné votre route sur plein de répertoires, dans Strauss aussi notamment, le regretté Armin Jordan.
Oui, j'adorais Armin, il était merveilleux pour moi, on s'aimait beaucoup, je pense, je peux dire ça. Il adore la mélodie.
Vous faites la fofolle sur scène, on a parlé de la Belle Hélène, mais lui, dans la vie, il était très drôle, très grassant.
Oui. Très drôle, oui. Quand on sortait après les représentations avec lui, c'était... Oh, il racontait des blagues toujours. Moi, je ne me souvenais jamais de rien. C'était dommage.
Mais ça détend les chanteurs, ça aussi.
Oui, mais il adorait les chanteurs. Et puis, il se mettait toujours derrière. Il nous donnait la possibilité de faire le mieux de ce qu'on peut faire, quoi. Je l'ai rencontré la première fois pour... on avait fait la scène finale de Capriccio à Genève. C'était merveilleux. Et puis quelques mélodies. Et après, j'ai beaucoup chanté avec l'orchestre de la Suisse romande et avec lui. Son orchestre l'adorait aussi.
Et puis aujourd'hui, bah, vous chantez avec Philippe Jean, le
oui.
fils.
Oui.
Tout n'est pas perdu. Alors, il est où ce musée Yvonne Printemps qu'évoquait François Leroux? C'est chez vous?
C'est chez moi, oui. Ce n'est pas tout à fait un musée. Je pense que c'est François Leroux qui a une collection extraordinaire de poésie, de musique. Mais j'ai pas mal de partitions signées. Par exemple, Francis Poulenc, vous signez Yvon de Printemps, dédicacé par Poulenc à Yvon de Printemps. Et des photos, des images, tout le théâtre de Sacha Guitry, que j'ai pas tout lu encore. Mais...
Ce sera pour la retraite, ça, Félicité. Oui. Mais attendez un peu, s'il vous plaît. Attendez
j'ai tant de choses à lire quand j'aurai pris la retraite. Je sais pas comment je vais faire.
Alors, j'ai lu quelque part que le disque de l'île déserte, enfin, celui que vous emporteriez s'il n'y avait qu'un seul, eh ben, c'est pas le chant, c'est du piano, je crois. Un extrait seulement, malheureusement, mais on est presque au pudding, hein, Félicité Lotte, de votre disque de l'île déserte, la fantaisie en fa mineur de Schubert, mais pas dans n'importe quelle version, celle de votre compatriote Noël Lee et de Christian Ivaldi. C'est cette version-là. Hein.
Oui, c'est cette version-là. Oui.
Et elle vous accompagne depuis toujours ? Parce que c'est pas un disque tout récent. Hein.
Non, depuis longtemps. Oui, j'ai entendu ça chez des amis et j'étais bouleversée. Et je connaissais déjà l'œuvre, mais je trouve c'est très très beau dans leur version, plein de sensibilité. Et puis là, bah, tout est comme il faut. Quand je prendrai la retraite, je vais travailler le piano aussi, encore une fois, parce que j'ai tout négligé pour, je sais pas.
Pourtant, vous l'avez commencé toute jeune, le piano.
Oui, justement. À 5 ans, et puis... Mais c'était jamais ce que je voulais, comme le violon aussi. J'ai joué un peu de violon, mais j'étais la première violon des violons seconds dans l'orchestre.
Il n'y a pas de mauvais pupitre, attention, dans un orchestre, félicité. Donc, beaucoup de choses pour la retraite. Tout lire Guitry, donc.
Oui, oui. Hein,
se remettre au piano.
Pas seulement Guitry.
Et le jardin.
Et le jardin, oui. Mais si j'ai le droit, c'est mon mari qui fait le jardin. Il me dit, où est-ce que je dois... Tu veux que je mette ça où? Et je dis...
Non, lui, il fait les trous. Qui décidez ce qu'on met dedans. Non,
il fait tout. Et puis, si je suggère quelque chose, c'est jamais ce qu'il faut suggérer. Donc, je ne dis plus rien. C'est lui qui fait le jardin.
Et cette passion des fleurs, elle est pareille? C'est ancien, cette famille, c'est...
Dans ma famille, oui. Oui, ma mère est très... Elle a des doigts...
Verts, comme
des
on
doigts
dit.
Verts, oui. Elle est... tout pousse. Et mon mari, il lit tous les livres sur le jardin. Et ça pousse plus ou moins. Mais ma mère ne lit rien. Elle met les plantes dans le terre. Et puis, pouf, merveilleux. Non, c'est pas gentil ce que je dis. Nous avons un jardin extraordinaire, très, très joli, plein de roses.
J'ai l'impression, j'en ai entendu parler. Non, non loin de Glyndebourne,
oui.
Presque la terre de vos débuts.
Oui, oui, oui. Glyndebourne a été pour moi très, très important.
Évidemment, oui.
Oui.
Félicité Dillot, vous faites partie de ces artistes et de chanteurs en particulier qui réécoutent leurs enregistrements ou pas?
Non, pas.
Donc je vous ai fait du mal, là, aujourd'hui?
Un peu.
Je vais retourner le fer dans la plaie, alors en vous offrant un thé plutôt qu'un café. On va se quitter en vous remerciant encore mille fois d'avoir partagé ce déjeuner avec nous, avec la scène finale de Capriccio, une musique merveilleuse et qui avait été choisie tout particulièrement par Hugues pour refermer sans régner l'Opéra de Paris, avec la merveilleuse mise en scène de Robert Carson.
Oui.
Et vous, dans ce rôle, encore une duchesse, mais bon, une comtesse plutôt. Celle-là.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est pour Dame. Dernière mesure de la scène finale merveilleuse de Capriccio de Richard Strauss, vous étiez Félix Tillot en compagnie du Royal Scottish National Opera, sélection de Nemo Yarvi. Mille merci encore d'avoir partagé ce déjeuner à la française, Felicity.
Merci.
Voilà, cette émission a été préparée, comme toujours, par Xavier Carrère, réalisée par Jean-Charles Dieval, avec aujourd'hui Alain Joubert. La semaine prochaine, on revient au Grand Mezzo, Anna Katerina Antonacci à notre table. Et tout de suite, les Dames du piano de Rodolphe Bruno Boulmi. Aujourd'hui, Marie-Catherine Giraud.
Pas étonné qu'on ferme.
Nice beaver.
Thank you.